Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Oui, il peut paraître paradoxal qu'une émission comme Grand Bien Vous Fasse célèbre un mode de cuisson réputé malsain, la friture. Oui, nous aurions pu ce matin consacrer cette émission à la cuisine vapeur, mais à la réflexion, non. Il sera question de bugne, de pédonone, de sphenge, de donuts, de frites, de tempura de légumes, d'acra de morue, de calamar frit, de briques, de fish and chips. Au cœur de l'hiver, des mets gourmands nettement plus désirables qu'un cabillaud vapeur. Les fritures réconfortent, mais elles inquiètent également, à juste titre, réputées caloriques, inflammatoires pour l'organisme, voire cancérogènes en cas d'abus. Nous verrons quels sont les risques d'un excès de fritures. Les fritures sont-elles vraiment mauvaises pour la ligne? Comment en déguster sans culpabiliser? Comment réussir son bain d'huile sans risque? Comment choisir le bon corps gras? Comment réussir beignets sucrés et autres tempura? Comment épater vos convives avec des frites de pommes de terre parfaites? Réponse ce matin avec le chef Grégory Cohen, le médecin nutritionniste Patrick Serog, l'auteur culinaire et épicière Alessandra Pierini et avec Daniel Jerkens du magazine Elle à table, notre complice ce matin. Vous évitez les fritures ou alors pas du tout? En êtes-vous dingue? Quelles sont vos recettes fétiches? Contactez-nous au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Vers 11h25, il sera question de plaisir sexuel avec Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebbi, vous allez bien?
Ça va très bien, vous êtes chef cuisinier, grand amateur de fritures sous toutes ses formes. Vous nous en avez apporté d'ailleurs, hein. Ça s'appelle comment ce que vous nous avez apporté?
Alors, en fait, j'ai essayé de refaire une galette des rois un petit peu différente, en feuilles de briques. Je l'ai faite avec ma fille de 5 ans, qui s'appelle Salomé, et qui m'a dit: papa, il faut absolument que tu dises que tu les as faites avec moi.
Et c'est fait. Bonjour Alessandra Pierini.
Bonjour.
Vous êtes épicière à Paris et l'auteur de La friture, 10 façons de la préparer, un fascicule publié aux éditions de L'Épure. Bonjour Patrick Serog.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste. Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour.
Directrice de la rédaction du mensuel Elle à table, qui fête ses 20 ans avec quelques pages consacrées à la friture. Alors, docteur Patrick Serog, la friture fait peur car c'est un mode de cuisson réputé malsain qui peut rendre malade si on en abuse.
Alors, c'est pas malsain si on n'en abuse pas, déjà. Oui, si on en abuse, effectivement. Le seul problème, c'est d'abord la consommation très importante d'huile dans les fritures. Mais ça dépend comment on va faire la friture, justement. On peut améliorer ce système-là. Alors, pour les gens qui ont du surpoids, bien sûr, il faut le limiter. Et puis, mais pour les autres, ils peuvent en profiter.
La friture, c'est une alimentation très, très émotionnelle.
Ah oui, c'est émotionnel parce que au niveau de la texture même, il y a au niveau des récepteurs au goût et du palais une sensation de douceur. Et cette douceur-là, elle est très difficile à reproduire en cuisine ailleurs que par la friture.
Qu'est-ce qui se passe quand on mord dans un beignet, dans une frite? Qu'est-ce qui se passe?
Du plaisir pur.
Daniel Jerkens.
Moi, je dirais du plaisir pur. En fait, il y a un mix de textures croquantes, de textures très... presque un peu pâteuse. Il y a du gras et ça, on l'aime. C'est du plaisir à l'état brut.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Patrick Serog?
Dans le cerveau, c'est toujours la même chose. C'est le système un petit peu de la récompense qui va jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir une sensation agréable qui est perceptible par les récepteurs au goût, va se déclencher dans le cerveau une sécrétion d'endorphines. Et là, on va vraiment... vivre le plaisir.
Grégory Cohen.
Ah bah c'est chaque fois une question d'endorphine quand on parle de sucre, quand on parle
de gras,
des exhausteurs de goût comme le beurre ou l'huile qui vont nous permettre justement de déclencher ces endorphines et donc faire en sorte que le cerveau, parce que on est des êtres très fidèles évidemment, hein, quand on trouve du plaisir, on veut revenir au plaisir, donc le cerveau va nous redemander ça. Autant que possible.
Daniel Jerkens, on assiste en ce moment à une grande réhabilitation du gras et les fritures profitent de ce nouvel état de grâce.
Alors, oui et non, je pense que la réhabilitation du gras n'est pas forcément celle des fritures stricto sensu quand même. Effectivement, le beurre revient un petit peu après avoir été extrêmement décrié. C'est le cas aussi dans un certain nombre de graisses animales qui, consommées de manière, on va dire, toujours raisonnable, est valorisé en ce moment. C'est le cas de l'avocat, par exemple. Voilà, donc il y a effectivement toute une série de matières grasses qui avaient été extrêmement décrites depuis les années 80, qui reviennent un peu. Je pense que la friture, c'est quand même un peu particulier, parce que professeur Serrog l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais le principe de la friture peut créer, lorsque l'huile n'est pas de suffisamment de qualité, les températures ne sont pas adéquates, etc., peut créer un certain nombre de composants qui ne sont quand même pas ultra recommandés. Ceci étant, on sent qu'on revient quand même, que ce soit chez les restaurateurs ou ailleurs, la dimension plaisir devient très très importante. Et il est évident qu'un beignet, un tempura, c'est quelque chose qui met quasiment tout le monde d'accord. Et j'ai l'impression que de plus en plus d'ailleurs, les personnes les consomment, les consommateurs les mangent à l'extérieur. Ils ne font pas forcément beaucoup de fritures chez eux, mais il y a un grand intérêt pour manger de la friture à l'extérieur.
Oui, alors c'est pas complètement étonnant, hein, parce que quand on fait de la friture chez soi, le problème c'est que ça reste un petit peu
au
niveau des odeurs pendant pas mal de temps. Faudra penser à se relaver les cheveux après et puis à mettre tout de suite ses vêtements à laver. Donc c'est pas complètement étonnant. Il y a un point qui est très très important sur la friture, c'est que l'huile de friture ne se conserve pas très longtemps. Un bain de friture peut être utilisé un certain nombre de fois, et attention, pas avec n'importe quels aliments non plus. Si je vais faire frire, par exemple, on parlait de fish and chips. Si je vais faire frire du poisson, après, si je m'amuse à essayer de faire frire des bugnes ou des pénones, le résultat sera pas franchement joyeux. Donc, faut passer et penser aussi à changer régulièrement son huile de friture.
Alessandra Pirini, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce fascicule consacré à la friture ?
La friture, déjà parce que les gens ne l'aiment pas trop. Alors, je suis un peu, toujours un peu provocatrice, mais moi, étant d'origine italienne, nous en Italie, nous avons vraiment une culture de la friture dans énormément de régions, surtout au bord de mer. On frit vraiment beaucoup. Et c'est aussi, si on regarde bien, c'est culturel, surtout dans ces régions où il y a une cuisine assez rustique, assez pauvre, où on a besoin d'enrober, de faire des choses un petit peu meilleures avec peu de matières premières ou des matières premières très très simples. Généralement, on fait aussi de la friture. Par exemple, en Ligurie, je pense au fricheuil, on le fait juste avec de la pâte frite comme ça, avec un petit peu des zestes d'orange, de citron. On peut la sucrer, on peut la saler. C'est tout de suite réconfortant. C'est très peu cher et tout le monde pouvait se la permettre.
Alessandra Pirini nous dit que les gens n'aiment pas forcément la friture. C'est pas totalement vrai. Ce qui est vrai, c'est la culpabilité qui est associée au fait de manger des frites, des beignets.
Oui, ça, je pense que c'est quasiment universel maintenant dans notre société. Il y a effectivement des personnes qui n'aiment pas ça du tout. Alors, je pense qu'il y a le facteur odeur, effectivement, parfum, qui en gêne un certain nombre. Je pense qu'un certain nombre sont... comment dire ? Peut-être qu'avant de manger par plaisir, mangent avec leur conscience plutôt qu'avec leur inconscient. Et ont une conscience suffisamment forte que pour leur mettre entre guillemets des barrières dont ils ont du mal à s'extraire. Et donc la friture, entre guillemets, c'est mal. Voilà. Il y a encore cette croyance très répandue, c'est si je mange quelque chose de gras, je vais être gros. Comme si le gras s'installait immédiatement, comme s'il y avait un transfert.
Patrick Serrog.
Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a toujours en nutrition, on a toujours un balancement. En ce moment, on décrit les sucres. Avant, c'était le gras, et on va certainement revenir un jour également à décrier le gras. Et en fait, le problème, c'est toujours trouver l'équilibre. Quand il y a un balancier quelque part, c'est qu'on n'a pas trouvé son point d'équilibre. Et l'équilibre, c'est à la fois de manger, évidemment, de temps en temps de la friture, qu'elle soit profonde ou qu'elle soit la friture plate, mais aussi d'arriver à bien mettre ce plat-là que l'on va manger dans le contexte d'une alimentation. C'est pas uniquement manger de la friture, c'est manger, faire un repas. Et c'est ça le plus important.
Si je décide de manger un pédonone ou un donut ou des frites, je le mange sans culpabilité. Je mets la culpabilité de côté.
Oui, je le mange sans culpabilité. Et autour de ce plat-là, je fais un vrai petit repas qui me permettra d'apporter les autres éléments nutritionnels nécessaires à mon corps.
Tout de même, Patrick Serrog, quels sont les risques d'abuser d'aliments frits? Frire un aliment, c'est utiliser une grande quantité de matière grasse que l'on porte à une température élevée. Ce processus modifie dangereusement les acides gras en créant des molécules nocives, éventuellement cancérogènes.
Alors, ces cas-là sont absolument extrêmes. Faut savoir que pour notre usage quotidien, d'abord, vous avez parlé tout à l'heure du nombre de bains de friture. Quand on le fait à la maison, il faut changer environ tous les 10-12 fritures le bain de friture. Et puis il y a l'huile. Quelle huile utiliser pour la friture?
On verra ça tout à l'heure.
D'accord. Donc, voilà. Mais le fait, c'est que prendre des fritures, ça ne pose aucun problème de santé. À partir du moment où on respecte un minimum de règles.
Mmh. Écoutons le comédien Michel Bougenat qui évoque dans Matin Bonheur sur Antenne 2, jadis, briques et cigares au miel avec Tata Lucette qui prépare tous ces mets délicieux, dont beaucoup d'huile.
Les gens, ils me disaient, mais comment vous avez fait dans l'ombre du monde pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle.
Bon, Tata, il faut leur dire ce que tu as fait aussi, là.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Des cigares.
Des cigares aux amandes.
Des cigares aux amandes. Alors, les cigares aux amandes, vous les faites. Je vous explique. Vous prenez de l'huile.
Quand on a de l'huile.
Quand vous avez pris
150 calories.
Quand vous avez pris 35 kilos.
Il n'y a pas l'instant, heureusement, de cette haine.
C'est-à-dire, ça, regardez ça.
Ça laisse pas disperser.
C'est 450 000 calories. C'est les trucs qu'on donne aux types qui sont anorexiques. Tu manges ça, et après tu manges pas pendant 15 jours. Et là, nous avons la nourriture pour à peu près 30 millions de personnes. Parce que Lucette, elle a réglé le problème de la faim dans le monde.
Patrick Serogue, les fritures sont réputées pour leurs effets sur le tour de taille, à tort ou à raison?
Si elles sont très régulières, oui, effectivement, vous allez manger. Il faut savoir qu'un gramme de lipides, c'est 9 calories. Oui. Donc, dès que vous mangez, dès que vous mangez un peu plus de lipides, vous allez les stocker au bout d'un moment.
Grégory Cohen, comme pour moi, ces recettes de briques et de cigares au miel vous parlent?
Ah oui, ça me parle complètement. En fait, c'est assez drôle parce que je me rappelle de mon petit koala, ma grand-mère, chérie. Quand elle savait pas ce qu'elle allait faire à manger, elle versait à peu près 1,5 litre d'huile dans une casserole. Et je lui disais, tu vas préparer quoi? Elle me dit, je sais pas.
Ah bah, oui.
Ça démarrait par ça. C'est assez drôle.
Quels sont vos souvenirs d'enfance liés aux fritures autour de la table, Alessandra Pierini?
Bah, nous, c'était surtout les entrées, surtout les poissons frits. Et maman, pour rendre ça agréable, il faisait ça comme on fait souvent aussi en Italie, en cornet, avec la pâte. Et disait, voilà, on fait comme ça, comme on fait dans la rue. Donc, on mangeait des fritures de petits poissons, des éperlans, ou alors des petits supions, ou des rondelles de calamar, des sardines, anchois aussi, les petits anchois, parfois ouverts, ou même farcis. On les faisait passer dans la chapelure et on les mangeait dans ce cornet, comme ça c'était très ludique.
Daniel Jerken, souvenir d'enfance.
Alors ma mère faisait souvent un plat visiblement typiquement suisse qui est une pâte à beignets dans laquelle elle mettait des petits morceaux de pommes et ensuite elle prenait l'équivalent d'une cuillère à soupe qu'elle mettait effectivement dans la friture et on roulait ça dans un mélange de sucre et de cannelle et autrement il y avait des beignets aussi qui là je pense... faudrait hurler dans le docteur Serogue, qui était vendu par des mamas à l'extérieur de notre école au Zaïre. Et c'était des sortes de petits beignets ronds qui étaient très sucrés. Marronasse noira, donc je pense que lui il avait dû servir à peu près 112 fois et qu'elle nous vendait dans des petits morceaux de papier, donc je pense qu'on mangeait aussi l'encre des journaux et c'était délicieux.
Voilà. Alors moi ce sont les beignets à l'abricot vendus à la récré de 10h à l'école Saint-Nicolas à Toulouse et puis également les beignets de ma grand-mère maternelle qu'on appelle Sfenge en Afrique du Nord. Vous savez de quoi je parle?
Ah oui, ça je connais les Sfenge. Moi
ce sont des gros beignets qui ressemblent à des donuts
qui sont un petit peu longs à préparer parce qu'il faut laisser la pâte lever, etc. Mais qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, s'ils sont bien faits, en plus, ils sont excellents. À noter aussi qu'il faut toujours, lorsqu'on fait des fritures et lorsqu'on fait des beignets, mettre après sa préparation sur du papier absorbant.
Exactement.
C'est super important, en fait, parce qu'en fait, on confond le gras et frire. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de gras quand on frit.
Et vous, Patrick Serogue, souvenir d'enfance?
Ah ben moi, ce sont ce qu'on appelait les latkes. Les latkes, c'est les beignets de pommes de terre.
J'adore.
C'est quoi, expliquez-nous?
Ce sont des pommes de terre qui ont été hachées et qu'on va faire frire, hein. Voilà. Et ça, c'est des souvenirs absolument merveilleux.
Et vous, racontez-nous quelles sont vos recettes de fritures fétiches. En êtes-vous dingue ou alors évitez-vous soigneusement d'en manger? 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fait. Alexia Rivière, Claire Destacan, Julien Macarès et Clément Martin m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite bri-bri. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. Drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, mes frites.
Valérie Lemercier, goûte mes frites.
Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h23 et on s'intéresse ce matin aux vices et surtout aux vertus de la friture avec la complicité du magazine Elle à table. Annie nous dit « J'aime faire des fritures en cuisine, des briques, des pommes sautées, des tempuras de supion. C'est un mode de cuisson agréable à réaliser. Mon petit Noam, 4 ans, me disait la semaine dernière « Moi j'adore les frites, un peu comme Valérie Lemercier » et également manger des churros. Vous avez une recette de churros pour le petit Noam, 4 ans, Daniel Jerkens. Il y a une recette dans le Elle à table.
Oui, on en a une dans le dernier numéro qui vient de sortir. Alors le churros c'est quand même très très simple à faire, c'est un mélange d'eau, la pâte, d'eau et de farine. On porte à ébullition, nous c'est 360 g d'eau avec un peu de sel. On met sa farine dans un saladier, 300 g, on verse l'eau en une fois sur la farine, on mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. C'est tout, la pâte est prête. Alors après, normalement, il faut quand même avoir une presse à churros ou comment on appelle ça, une poche à douille.
Oui, on peut alors, si on n'a pas de poche à douille, un petit tuyau, on prend un sac congélation, on met la pâte dedans, on coupe un des angles du sac congélation et puis on a une poche à douille.
Voilà. Donc on fait tomber ces morceaux de pâte dans une huile chauffée à 180 degrés, huile évidemment de friture végétale, et on laisse cuire ça 3 à 4 minutes à peu près. L'idéal c'est de le servir avec une sauce au chocolat, évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'en ce moment, on voit de plus en plus de restaurants branchés, même parfois assez chics, qui remettent le churros à la carte.
Alessandra Pierini, je rappelle que vous avez publié un fascicule qui s'appelle La friture pour le petit Noam, et pas seulement. Peut-être des struffolis, ce sont des petites boules de pâte au miel que vous avez amenées d'ailleurs. C'est quoi la recette des struffolis?
Struffoli, c'est vraiment un produit de saison. Disons, ça se fait surtout en Italie, dans le sud, dans la période du carnaval, parce que ce sont des toutes petites boules, on dirait, elles sont grosses, un peu comme un pois chiche. Ce sont des pâtes, c'est une pâte à base de farine, des œufs, un tout petit peu de beurre et très peu de sucre, qu'on fait frire dans une huile donc végétale avec un goût assez neutre. Et ensuite, on passe légèrement dans du miel d'acacia et on agrémente soit avec des amandes pilées, soit des pistaches, ou alors un mélange aussi de noisettes. C'est délicieux, on mange comme ça, on le picore, ça fait des petits bonbons.
Struffoli. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vos invités.
Alors, vous êtes lyonnais, mais vous vivez à La Réunion depuis une trentaine d'années. Que faites-vous à vos amis pour leur faire plaisir ?
Eh bien écoutez, je suis pas du tout cuisinier, je sais faire à peu près un steak à cheval, des œufs au plat, mais par contre, lorsque je suis parti à La Réunion, j'ai demandé à ma mère de me donner la recette des bugnes, qui est la recette du restaurant Vétard de la place Villecour de Lyon, je ne sais pas s'il existe encore, donc c'est une recette qui a au moins plus de 50 ans. Et régulièrement, puisque ici, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que les bugnes. Ils connaissent les matefins, les beignets, mais les bugnes lyonnaises, très simples, très peu connaissent. Et régulièrement, enfin 2-3 fois par an, je fais ça pour les amis, pour les copains de l'atelier de poterie, pour les copains randonneurs, pour la famille, ma fille, ma petite fille.
Quelle est la recette de votre mère? Quelle est la recette de votre mère?
C'est une recette très simple, hein. C'est 6 œufs, c'est 500 grammes de farine, c'est 90 grammes de sucre en poudre, c'est 10 grammes de sel fin. Je suis en train de la relire parce que je la connais pas par cœur. Il y a 100 grammes de beurre, un peu de zeste de citron et du rhum blanc. Ça tombe bien puisque nous sommes à La Réunion et du rhum, il y en a. Voilà. Et il n'y a pas de... Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour faire... Et les bugnes gonflent...
À la friture.
Allez-y.
Non, mais ça donne très envie. D'ailleurs, notre collaboratrice Claire Destacan nous a fait des bugnes que vous avez dégustées d'ailleurs autour de la table. Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre appel. Daniel Jerkens, le gras c'est la vie. Hein,
c'est ma devise.
Hein, c'est votre devise, c'est la devise de Kaamelott, hein, c'est la série Kaamelott. Ça, ouais. Hein. Mais quel gras choisir pour frire ces aliments?
Alors, généralement, on utilise des huiles végétales. Pendant longtemps, historiquement, on utilisait des huiles végétales et des graisses animales.
Comme le saindoux.
En Belgique, on dit que le secret des frites, des vraies bonnes frites, c'était la graisse de bœuf. Aujourd'hui, ça ne se fait très peu, voire absolument plus, parce que c'est notamment interdit pour des raisons de santé, et c'est beaucoup plus difficile à trouver. On peut aussi, tout à l'heure, le docteur Serrault me disait, on peut aussi utiliser de la graisse de canard. Effectivement, en fait, tout corps gras peut être utilisé. La plupart du temps, on utilise maintenant des huiles, et souvent des huiles neutres, pour éviter d'avoir effectivement le goût, donc des huiles avec des goûts très très forts, comme les huiles d'olive, souvent ne sont pas très utilisées, ne le sont plus trop. L'huile d'arachide est relativement utilisée. Certains utilisent des huiles de pépins,
de raisin,
qui a le mérite d'être neutre.
Tournesol
également. Ce qu'il faut essayer d'utiliser, c'est une huile qui a un point de fumée relativement haut, c'est-à-dire qui ne va pas brûler trop vite.
C'est quoi le point de fumée, Patrick Serrault?
Ben c'est le point à lequel, quand on chauffe trop l'huile, on voit en fait de la fumée sortir à ce moment-là.
Il vaut mieux la jeter, cette huile-là?
Non, elle peut être utilisée, mais il faut pas abuser et refaire tout le temps, réatteindre ce point de fumée. Dans la friture, ce qui est très important, c'est la température. Il vaut mieux une température assez élevée, tout simplement parce que la pénétration de l'huile à ce moment-là dans l'aliment sera moindre que si on prend une huile plus froide. Et dans les meilleures huiles qu'il y a dans la friture, c'est certainement l'huile d'arachide, parce que l'huile d'arachide contient beaucoup d'acide gras monoinsaturé, qui elle était très robuste, hein, comme l'huile d'olive, mais l'huile d'olive a un goût. Bon. Les huiles d'arachide que l'on a sont raffinées, donc elles n'ont pas de goût. Et effectivement, ce sont les plus robustes pour la cuisine.
L'huile chauffée conserve-t-elle les mêmes qualités nutritionnelles que l'huile qui sort de la bouteille?
Alors oui, l'huile chauffée conserve les mêmes qualités nutritionnelles si elle n'est pas utilisée plus de 10 fois. au-delà, non, il y a une transformation qui est due en fait aux aliments qui se déposent dans la friteuse et qui vont s'oxyder et qui vont modifier à ce moment-là la nature des acides gras. Mais autrement, on peut même utiliser de l'huile de colza, par exemple.
Hein, ah bon, oui. Bien qu'elle... L'idée reçue voulait que l'huile de colza devait être réservée à l'assaisonnement, aux salades.
Bien sûr, parce que l'huile de colza a des acides gras, des oméga 3 qui sont plus fragiles. Mais en fait, la majorité des acides gras de l'huile de colza, par exemple, ce sont des acides gras monoinsaturés, comme dans l'huile d'arachide. Donc on pourrait le faire, mais il y a certaines personnes qui ne supportent pas l'odeur de l'huile de colza à chaud.
Alessandra Pierini.
Oui, parce que je fais assez souvent de la friture, hein, et bon, il faut vraiment à chaque fois qu'on l'utilise, vraiment la filtrer, parce que ce sont vraiment tous ces corps justement qui se déposent au fond et qui modifient l'odeur, le goût. C'est vraiment désagréable.
On peut d'ailleurs mettre à la fin de la cuisson, mettre un blanc d'œuf dedans, qui permet de ramasser et d'agglomérer en fait les impuretés et donc d'allonger
clarifier,
un petit peu,
en fait,
voilà, de clarifier l'huile.
Grégory Cohen.
Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Juste attention, on a une course au bio, on a une course au non raffiné, etc. Sur l'huile de colza non raffinée, son point de fumée, c'est 107 degrés. On va pas aller très loin pour.
C'est uniquement du raffiné qu'il faut
faire attention.
Ouais, bien sûr.
Que penser du mélange huile-beurre pour frire?
Le mélange huile-beurre ne pose aucun problème. Le beurre est assez stable.
Il vaut mieux utiliser peut-être du beurre clarifié, peut-être? Beurre clarifié ou du ghee, le ghee indien.
Alors le beurre clarifié, en fait, il a une propriété, c'est que il va pas changer. Vous savez, en fait, il y a ce qu'on appelle le beurre, ensuite le beurre mousseux, ensuite le beurre noisette et ensuite le beurre brûlé. Mm-hmm. Le beurre clarifié, il va pas changer. Il va pas passer sur ces autres types de goût. Il va rester relativement neutre et il va moins brûler. Quand on met un petit peu d'huile avec du beurre, c'est aussi pour stabiliser et éviter que le beurre ne brûle. Ça va casser un petit peu les molécules du beurre et ça va lui permettre de ne pas brûler, mais de conserver encore un petit goût.
En deux mots, le beurre clarifié, expliquez ce que c'est.
Le beurre clarifié, en fait, on va récupérer les impuretés du beurre. En fait, on va récupérer tout ce qui va être laitage, qui va remonter.
Toutes les protéines, en fait.
Voilà, toutes les protéines qui vont être dedans. Et on va récupérer juste le beurre qui est clarifié, qu'on va conserver.
Que penser des corps gras type végétaline à base d'huile de copra hydrogénée? Je rappelle que l'hydrogénation permet d'élever la température de fusion d'un corps gras. Docteur Patrick Serug.
Alors, la végétaline est un produit qui était très utilisé dans les frites parce qu'elle donne un goût particulier
à ces frites
que les gens adoraient. La végétaline, ce sont des graisses très saturées. Et donc, effectivement, il faut vraiment pas en abuser puisque finalement, on va en consommer beaucoup quand même avec la friture, puisque je rappelle que une frite dans une friteuse normale, c'est 15% de graisse qui est absorbée par la frite. Et donc, ça fait quand même beaucoup au bout d'un moment.
Vous parliez tout à l'heure de température de friture profonde et de friture plate. Expliquez-nous.
Oui. Bah, la friture profonde, c'est une frite en friteuse dans laquelle on va monter la température au-delà de 180 degrés, alors que la friture plate va être à moins grande température et du coup n'a pas les mêmes effets ni gustatifs, ni non plus d'absorption de lipides sur les produits alimentaires.
Alessandra Pierini, à quoi ressemble une friture parfaite? Le grand auteur gastronome Brias Savarin écrivait que tout le mérite d'une bonne friture provient de la surprise. Pourquoi parle-t-on de surprise en matière de friture?
Mais parce qu'il y a cette espèce de robe croustillante, croquante, dorée, qui donne envie, et en fait, quand on croque, c'est un peu une surprise ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc déjà, l'aliment, il va être cuit, on attend sa saveur, on attend un petit peu sa consistance. Et c'est cette envie et cette différence qu'il y a entre le moment où on la voit, on la sent, et le moment où on la porte à la bouche et on la croque.
Grégory Cohen, vous avez attendu cette surprise hier avec votre fille quand vous avez confectionné ces bestelles.
Bestelles, exactement.
Bestelles, pardon.
Oui. La friture,
c'est briques, c'est des briques triangulaires.
En fait, c'est des triangles. Sont des triangles. Nous, on appelle ça des bestelles. L'idée là, c'était de les avoir reconstitués. Dans un de ceux-là, j'ai caché une petite fève. C'est une crème d'amande avec des amandes effilochées, un petit peu de miel, des zestes d'orange. Et puis évidemment un petit peu de miel autour. Ce qui est fabuleux avec la friture, évidemment, c'est qu'on a ce mélange des textures qu'on parlait de tempura tout à l'heure. On peut avoir une pâte à beignets qui va être super allégée par exemple en remplaçant l'eau par de l'eau gazeuse ou avec de la bière, qui va nous permettre d'avoir un petit peu de levure du coup puisqu'il y en a dans la bière, d'avoir autour ce croustillant et à l'intérieur ce fondant. Donc il y a un art de la friture en fait presque à l'Irébéi.
Quelle est la température idéale? On peut la rappeler peut-être, Alessandra Pierini?
Moi, je frie toujours, je fais vraiment attention, hein, avec un thermomètre entre 170 et 180 degrés, jamais dépasser les 180 degrés. Après, il y a des techniques, parfois, de friture. Moi, je le mets dans la recette des artichauts à la juive, le karchauf à la judéa, et où on fait deux bains, un peu comme comme les frites. Où il faut un bain de friture à 140 degrés et ensuite, en laissant reposer, un deuxième à 180 degrés, vraiment pour saisir l'aliment, le faire croustiller.
Pour vérifier la température, on peut jeter un petit morceau de pain dans l'huile et si ça grésille, c'est que la température est bonne. Alors ça peut paraître un peu idiot, mais le contenant est important, Patrick Serogue.
Oui, mais bien sûr, il faut absolument des friteuses thermostatées, comme on dit, hein, où on peut vraiment régler la température que l'on veut, parce qu'effectivement, si on va à la louche comme ça, c'est très improbable comme résultat. Hein.
Bah, oui, de manière générale, il est préférable, si on fait régulièrement des fritures chez soi, d'investir dans une friteuse technique, entre guillemets. Ma mère en a une, par exemple, donc c'est la grande joie de la famille quand on y va.
Si
parce que
moyens.
Du coup, on a souvent des fritures.
C'est vous qui l'y avez offert, non? C'est les cadeaux de
la famille. Même pas, d'autres s'en sont chargés, mais on en profite. Alors, autrement, si on fait de manière extrêmement rare des fritures,
une marmite
ou une casserole à bord haut suffit, dans laquelle il faut mettre suffisamment d'huile. Effectivement, souvent on dit qu'il faut un rapport de 1 à 6.
C'est-à-dire
entre le poids des aliments et le poids de l'huile en tant que telle. Donc il faut vraiment prévoir large. La friture ne se fait pas avec radinerie, disons.
C'est vraiment un bain.
Voilà.
Et que pensez-vous, justement, des friteuses électriques type ActiFry, hein, qui promettent de frire dans très peu d'huile?
Alors moi, je l'ai testé. C'était pas mauvais. Mais
bon, il manque quelque chose quand même.
Oui, pour moi,
on le fait comme il faut.
Mais là, je voudrais quand même dire quelque chose.
Ah, Patrick Serogue.
Oui, quand même. Parce que effectivement, quand vous faites des frites avec cette friteuse, si on peut appeler ça une friteuse, cet ustensile de cuisine, eh bien, on a quand même des frites qui contiennent 3 à 4 grammes de graisse pour 100 grammes, contrairement aux 15 grammes que l'on a dans une friteuse classique et aux 10 grammes que l'on a dans les frites au four qui sont pré-frites. Donc, il y a quand même un grand avantage. Si vous avez des enfants qui adorent les frites, qui adorent ces pommes de terre-là, c'est vrai que c'est un grand avantage nutritionnel que de pouvoir leur en donner plus souvent avec ce moyen-là.
Allez, il est temps de retrouver la chronique Pas son genre avec Julia Foyce.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon?
T'as menti?
Bah oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et j'ai un câble droit de fille, voilà.
Bonne année à vous, Julia Foyce.
Mais bonne année à vous.
Vous avez l'air en pleine forme.
Ah ouais.
Cette semaine, vous avez une pensée pour celles qui écoutent, une pensée pleine de sororité et de concupiscence.
Amen. Sachant que, d'après la dernière enquête IFOP sur la sexualité des Françaises, une sur quatre n'a pas joui lors de son dernier rapport, que deux sur trois simulent un peu, beaucoup, parfois, et que 20 à 30% d'entre elles seulement peuvent avoir des orgasmes par stimulation vaginale uniquement, cela nous fait un léger problème avec la pénétration. Alors attention Ali, hein, pas pour les hommes le problème à première vue. Eux, 9 fois sur 10, ils ont joui lors de leur dernier rapport. Et ce, moyennant quelques allers-retours péniens. Après quoi, basta, l'éjaculation masculine signe la fin du rapport sexuel. Comme la pénétration marquait le début. Pilier de la chambre à coucher, pivot d'un imaginaire un brin étriqué. Totem de la virilité, le Saint-Pénis concentre à lui tout seul l'alpha et l'oméga de notre sexualité. Quand l'homme sexe, l'homme chasse, l'homme attrape, prend, possède, bref, conquiert une terre vierge, si possible, et il l'explore en long, en large, en travers, instinct de propriétaire, il la maîtrise, il la contrôle, omettant rarement de la quitter sans l'avoir au préalable ensemencée, la préservant ainsi d'une désolante stérilité. Reconnaissante et dévouée, la femme, elle, accueille, recueille, reçoit, attend, et compte les moulures au plafond accessoirement. Alors c'est marrant parce qu'a priori on a aussi des mains, des langues, des doigts. Hein. C'est drôle parce qu'avec on pourrait titiller, chatouiller, effleurer, mordiller, susauter et zoup, décoller même quand c'est bien fait. Ça arrive parfois, mais ça compte pas. Non, pas en soi. Nécessaire à la lubrification du réceptacle et à l'érection du piston. Les préliminaires auraient une utilité toute mécanique et finalement accessoire, sorte de préalable aussi utile qu'anecdotique pour connaître les joies du sexe, le vrai, le costaud, le qui pénètre, le qui croit, le qui multiplie. Je bande, donc je suis. Je baise, donc je me reproduis. sauf que bah, c'est fini tout ça, non? Au risque de paraître un tantinet audacieux, j'ai l'impression que d'aucuns copulent hors mariage, que d'autres se marient hors église et sacrement, et que tous forniquent parfois sans faire d'enfants, juste pour le plaisir. Et je savais qu'un jour j'arriverais à citer Herbert Léonard dans cette chronique. Iha. En tout cas, avec la contraception, la sexualité s'est dissociée de la reproduction, reproduction qui, elle, l'ingrate, est à son tour en train de se détacher de la sexualité. PMA oblige, de là à se dire qu'on pourrait dans tous les cas se passer de pénétration. Eh ben techniquement, oui, enfin, on aimerait bien, hein, pas toujours, hein, juste de temps en temps essayer de faire du sexe autrement. Dans ce sondage IFOP, elles sont une sur deux. À souhaiter donner plus de place à d'autres gestes que la pénétration, et en pratique, elles sont de plus en plus nombreuses à le faire toute seule. En un demi-siècle, les adeptes de l'onanisme ou du do-it-yourself, hein, si vous préférez, ont été multipliés par 4, de vous à moi. Franchement, avec un bijou pareil entre les mains, on les comprend. Le clitoris est l'organe le plus sensible, et si vous sentez soupçon de fierté dans ma voix, vous n'avez pas tort, hein, le plus sensible qu'on puisse trouver chez l'être humain. 8000 terminaisons nerveuses contre 4000 pour le gland, je sais. Tout à fait envie. Envie de se dire qu'on pourrait même se passer d'un pénis. Aïe! Figurez-vous que certaines le font aussi, Ali. Il y a des femmes qui aiment les femmes, qui font l'amour avec elles et qui adorent ça, au point d'ailleurs de se passer complètement des hommes dans leur vie quotidienne. Elles ne l'attendent pas, elles ne le cherchent pas, elles sont bien comme ça. Je sais, c'est un peu insolent, comme une offense à sa majesté la Vierge, que notre vision hétéronormée, voire phallocentrée des choses, aurait un tout petit peu de mal à digérer, façon de parler. Ouais, mais il va peut-être falloir lâcher un peu de lest, hein, donner du mou, même si je sais que dès que je dis mou, vous commencez tous à flipper. Du calme, c'est juste que ça peut paraître intéressant. À une époque où les femmes demandent un peu plus d'échange et d'équilibre entre les sexes, d'élargir un chouille le répertoire, de renouveler les pratiques, d'élaborer le scénario au-delà du simple culbuto, vous voyez ? Vous devriez. Si, vous avez tout intérêt à le faire à partir du moment où le Saint-Pénis n'est plus le seul à porter l'entière responsabilité du coït, alors il a la paix, alors il peut faiblir, alors il peut débander, il peut avoir ses états d'âme. Et les problèmes de taille, voilà, c'est réglé quant à la pénétration. Si vous l'adorez, on peut la garder. Simplement, parfois, c'est vous qu'on pourrait pénétrer. C'est bizarre, Ali, mais parce qu'au moment où je dis vous qu'on pourrait pénétrer, j'ai senti pas mal d'oreilles se fermer. C'est dommage, j'aurais pu leur parler du plaisir prostatique. Il paraît qu'il est gigantesque.
Grégory Cohen, Patrick Serrault, vous pouvez peut-être répondre à Julien. Ah,
c'est moche de nous balancer la patate chaude, là, comme ça, Ali. Je crois que c'était à vous qu'elle s'adressait, non?
Et d'ailleurs, je remarque
que... Vous êtes les premiers concernés.
Je remarque que vous dites pénis.
Oui, là, ah, parce que je dis le Saint-Pénis, donc j'ai une forme de déférence.
C'est
de
très bien, parce que c'était un peu pénible aussi. Voilà.
Pas toujours.
À ne pas frayer, je dirais.
Ça dépend. Disons qu'il faut respecter une certaine température.
Voilà, exactement.
Vous pouvez réagir à la chronique de Julia Foy sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, racontez-nous quelles sont vos fritures fétiches. Sans transition, en êtes-vous dingue? En êtes-vous dingue? Ou évitez-vous soigneusement d'en manger? 01 45 24 7000. N'hésitez pas à partager vos recettes.
Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You are my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. Sweetest melody I've never sung. That fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time.
you are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are my island of love, my lemonade to rescue me. You are the breeze, the song I can't move. You are the sweetest melody I've ever sung. Esta melodía que hace el abismo dentro de mí, el abismo dentro de mí. Mi luna, Michel.
Voix des trous.
Attention. Patrick Watson interprété Mélodie Noire.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et oui, la chronique de Julia Foyce continue à faire parler pendant le disque. Il est 10h46.
Et je vous en prie, revenons à la friture.
On s'intéresse ce matin au plaisir de la friture avec la complicité du magazine À la table.
Bonjour.
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 Bonjour. Ça va?
Ça va bien.
Bah, il est où votre restaurant?
Hein? Quel restaurant?
Bah, votre restaurant, là. Baraque à frites.
Je suis pas un restaurant. Le baraque à frites, c'est une baraque à frites, hein? C'est là.
Vous rapportez? Vous mangez sur place?
C'est une caravane.
Chez toi, une caravane. Maintenant, chez une baraque à frites. Ils dorment plus dedans, ils font des frites.
Bonjour, vous autres. Vous voulez quoi?
Bonjour, Momo. Comme d'habitude?
Bah ouais.
Alors, deux frites fricadelles et un américain, s'il te plaît.
Martine, fricadelle américain.
Quoi que c'est que vous voulez?
Fricadelle américain, ça marche.
Je sais pas, comme vous?
Bah, rajoute une frite fricadelle, Momo.
Quelle sauce?
Picolili.
Martine, picolili.
Et à picolili.
Ah, c'est de la nourriture gitane.
Non, c'est une spécialité d'ici.
Extrait évidemment de Bienvenue chez les Ch'tis. Bonjour David Fontaine.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue. Alors vous êtes le patron et le créateur de la friterie La Frite Adorée à Vambruchy dans le nord, en banlieue de Lille. Et vous venez d'être sacré meilleure friterie de France par le classement annuel du site lesfriteries.com. Premier sur 1238 friteries. Comment réussir de bonnes frites, David Fontaine?
Ah bah écoutez, on travaille avec son cœur, des bons produits, et moi personnellement j'ai choisi de travailler avec du gras de bœuf.
Ouais. Alors d'abord, voilà. quelle est la bonne pomme de terre pour réussir des frites?
La bonne pomme de terre, c'est de la binge.
Mm-hmm. Alors comment on reconnaît une bonne binge?
Ah bah de toute façon, la bonne binge, on n'en a pas toute l'année, parce que heureusement pour nous, c'est encore la météo et les saisons qui choisissent de la qualité de la pomme de terre.
Mm-hmm.
Mais en général, quand on prend de la binge, on est sûr de tomber sur un bon produit.
Quelle autre pomme de terre on peut utiliser quand la saison de la binge est passée?
Oh bah, y a les premières qui arrivent avant les binges, après il y a l'artémie.
Mm-hmm. Et en ce moment, on est en pleine saison des binges en ce moment?
On est en pleine saison des binges, exactement.
D'accord. Alors comment cuire ces pommes de terre frites? Comment vous y prenez-vous à la frite adorée?
Ah bah écoutez, comme ça doit être fait, c'est-à-dire un premier bain, ce qu'on appelle une pré-cuisson à 130 degrés.
Mm-hmm.
Après, on les laisse reposer au-dessus pour qu'elles refroidissent un petit peu.
D'accord.
Et après, on leur donne un petit croustillant et une belle couleur en cuisson à 180 degrés.
Mm-hmm. Alors, quelle huile utilisez-vous, David Fontaine?
Pardon?
Quelle huile utilisez-vous, David Fontaine?
Ah, je n'utilise pas d'huile, je me sers du gras de bœuf.
D'accord. C'est facile à trouver dans le commerce, ça, le gras de bœuf.
Le gras de bœuf, maintenant, vous savez en trouver dans les grandes surfaces. En général, il se situe dans les rayons frigo. Oui, on arrive à en trouver. C'est vrai que c'est quelque chose qui coûte très très cher. Mais voilà, maintenant, le particulier arrive à en trouver en grande surface.
Patrick Serog?
Non, c'est surtout dans les régions du Nord où on trouve facilement de la graisse de bœuf, alors que chez nous, c'est plus difficile.
Alors, comment on fait si on habite ailleurs que dans le Nord et qu'on n'arrive pas à trouver de graisse de bœuf? Qu'est-ce qu'on utilise comme... Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, à défaut de graisse de bœuf?
Bon, il y a le palme, la fameuse végétaline, hein, c'est pas trop mal non plus. Mm-hmm. Quand on n'a pas le choix et qu'on trouve pas ce qu'on veut, ben on travaille là-dessus. Après, l'histoire de la graisse, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Mm. Il y en a qui vont faire ça à l'arachide, d'autres au tournesol. Après, c'est une histoire de goût. Il y en a qui n'aiment pas ce fameux petit goût qu'on trouve sur la frite cuite au gras de bœuf. Mm. C'est vraiment une histoire de goût.
Alessandra Pierini.
Si on connaît un bon boucher, je sais qu'on peut même le commander. On peut avoir du gras de bœuf. Ça se négocie assez facilement. Oui, on nous le garde. On peut le commander.
Et alors moi, à titre personnel, la végétaline, ça ne m'attire pas des masses. Le gras de bœuf, bon, il faut voir. Mais et l'huile d'arachide, ça peut être une alternative?
Ah bah oui, pourquoi pas.
D'accord.
Pourquoi pas? Comme je dis, quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, je veux dire, il y a plusieurs procédés pour faire les frites, enfin plusieurs matières premières en graisse. Et bah, après, c'est sûr, quand on n'arrive pas à trouver de gras de bœuf, moi j'ai du gras de bœuf qui est raffiné, donc c'est sûr que, voilà, on fait avec d'autres huiles hein, qu'on trouve. Je pense que la meilleure solution, c'est les fameux pains de végétaline qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais ça n'a aucune saveur.
Ouais.
Voilà, après, il faut peut-être partir sur l'arachide, la tournesol.
Docteur Serog.
L'arachide, la végétaline, ça a du goût. Hein. La frite et la végétaline se reconnaît vraiment bien.
Daniel Jerkens.
Moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la taille idéale des frites? Est-ce qu'il faut les faire très fines, comme ça s'est imposé à travers notamment les fast-foods, ou au contraire, les vraies bonnes frites sont des frites plus épaisses?
C'est pareil, madame, ça dépend un petit peu de... C'est une histoire de goût. Au plus la frite va être épaisse, au plus vous aurez ce phénomène de purée à l'intérieur de la frite. Hein. Au plus elle va être fine, au moins vous aurez de chair à l'intérieur du fameux bâtonnet de frites.
Grégory Cohen, comment vous réussissez vos frites, vous?
Alors, ce qu'il dit est complètement vrai. Hein. Il y a soit le croustillant qu'on va privilégier, donc là, la frite va être fine, soit il y a le fameux croustifondant, où elle va être croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Exactement, deux bains de cuisson, même chose. Hein,
à 130 degrés d'abord, après 180, oui, 190.
C'est ça, pour qu'on ait justement ce côté où elle commence à cuire et elle commence à fondre, et puis après, où on va enrober avec cette croûte, le fameux croustillant de la frite.
Quelle est la meilleure sauce pour accompagner vos frites, David Fontaine?
Alors, je vais vous dire celle que je préfère, moi, c'est la sauce samouraï. Après, c'est pareil, c'est une question de goût. On arrive à trouver dans le Nord une superbe sauce qui marche mieux que la mayonnaise maintenant. C'est la fameuse sauce Hannibal.
C'est quoi?
C'est une sauce légèrement sucrée qui a le goût d'oignon frit.
Daniel Jerken, c'est quoi votre
sauce idéale pour accompagner les frites? Mayonnaise, mais c'est une mayonnaise citronnée.
Ouais. Et vous, Grégory Cohen?
Alors moi, je fais autre chose. Je vais prendre du pecorino truffé que je vais faire fondre avec un petit peu de crème. Et ensuite, je vais les mettre sur mes frites et je vais avoir un truc absolument orgasmique.
Qu'est-ce qui vous arrive, Julia Foyce?
Ben voilà,
en fait, c'est une comme poutine de luxe. Hein,
tu vois,
on
le plaisir.
D'accord sur la frite.
Merci beaucoup, David Fontaine, et bravo pour votre classement. Allez, Daniel Jerkens, une recette peut-être de fish and chips issue de la table.
Alors, le fish and chips, c'est vraiment une recette qui plaît énormément. Nous, on a décidé d'en proposer une variante dans notre numéro qui vient de sortir.
Ne dites pas revisiter, je vous en supplie.
Non, un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on s'est dit que plutôt que de faire une panure classique, on propose une panure avec des flocons de cornflakes non sucrés, évidemment. Ce qui va donner une texture encore plus croquante, avec encore plus de contraste. Voilà, donc pour faire cette panure, c'est très simple. Vous écrasez, enfin, on émulsionne avec une fourchette des blancs d'œufs. Mmh. On écrase grossièrement les cornflakes et on trempe successivement les morceaux de cabillaud d'abord dans le blanc d'œuf, ensuite dans les cornflakes et on fait frire dans de l'huile, tout simplement. C'est vraiment très très simple, mais ça donne quelque chose de différent.
Alessandra Pierini, et si nous faisions des torta frita, des beignets de pâte à pain, c'est une recette typique de la région d'Émilie-Romagne dans le nord de l'Italie. Ça m'a l'air absolument délicieux.
Ah, c'est super. C'est une pâte à pain que dans le temps on faisait frire absolument dans le sein doux parce que ça donne un petit peu ce caractère très croustillant enfin, à la pâte. Et ce sont vraiment des triangles qui sont creux à l'intérieur. Ça frit vraiment quelques secondes et ensuite on les serre soit avec de la charcuterie et on met du fromage à l'intérieur. C'est très gourmand.
Recette similaire, Grégory Cohen, avec votre recette de pizza du peuple. Il s'agit d'une pizza napolitaine frite.
Une pizza napolitaine frite, en fait, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, très très rapidement les fours à bois ont été détruits, les femmes reprennent le pouvoir en cuisine, Et puis on passe à la friture. On passe à la friture. Donc on peut très rapidement soit aller chez le boulanger acheter de la pâte à pain crue, on l'étale, on la baisse, on fait ensuite un petit triangle qu'on va garnir avec un peu de roquette, un peu de concentré de tomate, une tomate confite et une bille de mozzarella. On va replier ce triangle et on va le mettre à frire à 180-190 degrés. Ce qui va se passer, c'est que la mozzarella va fondre et puis on va sortir cette petite boule de pizza qui va être croustillante et fondante à l'intérieur. Un délice.
Julia Fos, la franco-italienne que vous êtes, font plaisir.
Bah, surtout napolitaine. Oui. Ça, c'est à Napoli. Mais moi, de toute façon, j'ai le cerveau qui s'éteint quand on parle de bouffe. Donc,
et de friture en particulier.
Mais de toute façon, j'aime tout ce qui est gras. Donc, je suis perdue pour la cause détox, moi, parce que j'adore ça.
Alors, j'aimerais vous lire deux messages. Céline qui nous dit « Beau sujet aujourd'hui, car il me replonge dans un doux souvenir d'enfance. Au printemps, ma maman nous envoyait à la campagne en vélo récolter les fleurs d'acacia au printemps. En rentrant, elle trempait les fleurs dans la pâte à crêpes et elle les faisait frire. C'est absolument délicieux. Et cela s'inscrivait toujours dans un moment chaleureux. Sylvie, c'est vrai que le mot friture rime avec plaisir et il est difficile de manger des fritures sans culpabiliser. Cela englobe aussi de beaux souvenirs d'enfance avec une maman franc-comtoise qui faisait des beignets avec la recette de sa maman. Aujourd'hui, j'habite dans le sud-ouest et je remplace la végétaline ou l'huile de friture par de la graisse de canard issue de confit de canard fait maison. Les frites de petit marron avec la peau et la graisse de canard, c'est à tomber, nous dit donc Sylvie. Tiens, Danette Gerken, c'est quoi exactement une tempura?
Alors, une tempura, c'est, je parle sous la direction de Grégory Cohen, c'est en fait un beignet japonais, une technique japonaise, qui est en fait une pâte à beignet extrêmement légère, extrêmement fine, souvent qui était faite à base de pâte de riz, d'ailleurs de farine de riz, qui est une farine très très fine, dans laquelle on peut mettre de l'eau pétillante, effectivement gazeuse pour encore l'alléger. Et donc on trempe, alors ça peut se faire avec des crevettes notamment, mais ça se fait beaucoup avec des légumes, les tranches de légumes ou des champignons d'ailleurs aussi, enoki, etc. On trempe rapidement le beignet là-dedans. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une couche très très fine de pâte dessus et on la cuit. Ça donne des beignets très légers, très savoureux, qu'on sert avec généralement une sauce, un peu de sauce soja, parfois un peu de gingembre râpé, allongé avec de l'eau. Voilà, c'est quelque chose d'assez fin, de nuageux, voilà, oui.
Pour terminer, comment réussir à quelques jours de Mardi Gras une bonne pâte à beignets? Comment s'y prend Grégory Cohen?
Une pâte à beignets à ratable, par exemple, pour faire des beignets aux pommes.
Exactement.
Par exemple, incroyable. Alors,
vous lisez dans mes pensées.
Très très simple. On prend 250 g de farine, 20 centilitres de lait tiède, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 2 œufs et un sachet de levure chimique. Le lait tiède va permettre de faire réagir la levure chimique beaucoup plus rapidement. On mélange le tout. Alors d'abord les ingrédients secs ensemble évidemment. Ensuite, on fait un petit trou dedans, on met les œufs, on remélange, on rajoute peu à peu le lait tiède et on a notre pâte à beignets. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on prend des pommes, on va enlever le trognon de la pomme, on va couper des lamelles de pommes. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre ces pommes et de les mettre dans un peu de sucre glace avec un peu de vanille ou alors de la cannelle.
Un peu de rhum peut-être.
Le rhum, on va le mettre dans la pâte à beignets, mais on peut. Oui. Une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu comme une panure, tout simplement. Mm-hmm. Ma pomme va être entourée, elle va prendre la pâte à beignets et on va la mettre à frire à 180 degrés. 180 degrés, c'est la température pour les nuls, hein, quoi qu'il arrive. Le four, on le met à 180 degrés, la friture à 180 degrés, on est sûr de pas se tromper.
Merci beaucoup Grégory Cohen, merci Dr Patrick Serog, merci Alessandra Pierini. Votre livret, La friture, est publié aux très belles éditions de L'Épure. Merci Daniel Jerkens, votre dossier consacré à la friture est disponible dans le numéro de janvier-février de La Table, qui fête donc ses 20 ans. Bon anniversaire
à
La Table. Demain, pourquoi quitter une grande ville pour une plus petite, pour un village, en collaboration avec Ouest France. Nous recevrons le géographe Brice Gruet et le philosophe de l'urbain Thierry Pacot. Et vous, racontez-nous votre migration. Êtes-vous devenu un néo-rural? Au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.